Une seconde à faire. Et voilà! Nous irons en tir de barrage grâce à Caden Primo, Danny.
Wow!
C'est parti pour match!
Salut, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 16e épisode du balado Bon Match. Salut, Danny.
Salut, Martin.
Alors, un épisode intéressant, du moins, on l'espère, pour les gens qui nous suivent. Oui. Martin Saint-Louis a dû quitter l'équipe pour des raisons personnelles. C'est difficile pour nous de parler des raisons qui ont motivé le départ de Martin Saint-Louis. On peut certainement croire que ce sont des raisons très sérieuses, c'est familial, c'est personnel. Mais ce qu'on va essayer d'explorer, c'est l'impact que ça aura sur l'équipe. Martin Saint-Louis est un personnage central chez le Canadien de Montréal. Cole Caulfield a commencé le voyage avec son 20e but cette saison. Ouais. On est bien loin des 40 et des 50 buts que certaines personnes ont rêvé pour cette saison-ci. On va essayer de voir ensemble, Danny, si tout ça c'est négatif, comment c'est arrivé, est-ce qu'il peut connaître une belle fin de saison, est-ce que ça peut être porteur pour les années suivantes. David Ranbacker a terminé sa saison avec l'équipe de Kloten en Suisse, il reviendra. Il y a aussi quelques jeunes à ce temps-ci de l'année là, qui sont sur le point de terminer des saisons. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait les voir avec le grand club? Est-ce que c'est souhaitable? Le Rocket de Laval tente de survivre actuellement dans la série. Ça influencera beaucoup les décisions de l'équipe. Et en terminant, pour ce qui est du menu de ce 16e épisode, on va parler des transactions qui ont été faites dans la LNH, mais maintenant que c'est fait, maintenant que le remue-ménage est complété, il y a des équipes qui ont amélioré leur sort. D'autres, c'est difficile à mesurer, mais déjà, les statistiques des premiers matchs suivant le 8 mars dernier démontrent que certaines équipes se sont très bien positionnées. Oui. Alors, c'est le menu qu'on vous propose, mesdames, messieurs. D'entrée de jeu, c'est une nouvelle triste, bien sûr, parce qu'elle touche la famille de Martin Saint-Louis. David Savard, dans une entrevue à la télé, en direct à TVA Sports, après la première période du match contre Calgary, qui était le premier match de ce long voyage dans l'Ouest, a mentionné que ça touchait un des fils de Martin. C'est ce qui l'a forcé à quitter précipitamment l'entourage de l'équipe. Ouais. Danny, hormis ça, qui est une chose très personnelle, on va respecter la famille de Martin Saint-Louis dans une situation comme ça, parce que je pense que tous les gens qui nous écoutent, Danny, voudraient être respectés dans une situation personnelle
puis
comme
les
ça.
Les gens, juste pour peut-être spécifier, là, on le sait pas. Là. Ouais. Nous, on n'est pas au courant.
Au moment où nous enregistrons, on n'a pas plus de détails.
On est lundi, à Edmonton. On n'a pas ces informations-là. Ouais. Puis, on ne va pas non plus faire de démarche pour tenter de le savoir, même si on sait que les joueurs sont au courant. On n'ira pas là.
Ça fait partie de respecter l'individu, Danny.
C'est un code qui est très important pour nous. On passe notre vie avec ces gens-là.
Oui.
Et puis, je pense qu'il y a un respect mutuel d'un côté et de l'autre parce qu'on connaît notre place.
Oui.
On sait jusqu'où on peut aller. Puis, on espère que les gens comprennent que nous, là, dans une situation comme ça, c'est très important de mettre en avant-plan le respect qui nous anime tous parce qu'on vit dans une espèce de communauté.
Oui.
On est toujours ensemble.
Effectivement. Puis, transposez ça dans vos vies, mesdames, messieurs. Quand il arrive quelque chose dans votre famille, à vos enfants, à vos proches, est-ce que vous voulez informer tous vos collègues de travail? Mm-hmm. Peut-être pas. Vous gardez ça dans un petit cercle. Peu importe la façon dont vous voyez les choses. Martin est une personnalité publique.
Oui.
Ça change un peu la donne. Mais quand ça touche la famille proche d'Annie, faut garder ça dans leurs mains.
Et c'est à Martin et l'organisation de décider au moment opportun ce qu'ils veulent dévoiler. S'ils veulent dévoiler quelque chose, ça leur appartient.
Et si l'absence se prolonge aussi, je pense que ça va dicter la façon de penser dans ce dossier-là. Parlons de hockey. Danny, Martin Saint-Louis, c'est le personnage central du film. Je prends l'image du film, mais c'est carrément ça.
C'est sûr.
Nick Suzuki a émergé beaucoup cette année. Il s'est vraiment établi comme le leader du Canadien de Montréal, le leader sur glace de toute l'organisation. Je pense que on en a parlé dans des précédents épisodes de Bon Match. Je pense que ça, c'est incontesté, incontestable au moment où on se parle. Mais Saint-Louis est ce pourquoi je pense, Danny, les partisans achète tout ça. Il est le visage de dire, ben, on s'en va vers une direction. Cette direction-là, elle est bonne. Le public a confiance aux décisions de Martin Saint-Louis. Il a établi aussi dans de précédents épisodes, on a parlé du lien qu'il a réussi à établir, non seulement avec ses joueurs, mais avec le public. La confiance que lui porte le public.
Ben, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que les gens veulent le soutenir dans ce qu'il vit, sans savoir ce que c'est. On sait que c'est assez sérieux pour qu'il quitte l'équipe. Donc, évidemment que ça mobilise tout le monde. Puis moi, je trouve que ça a mobilisé l'équipe, peut-être pas de la bonne façon lors du premier match.
Ouais.
Et moi, j'ai fait un constat, Martin, dans le premier match, en absence, c'est-à-dire le match contre Calgary.
Celui contre les Flames Flames de Calgary samedi dernier.
Le premier match où Martin s'est absenté. Puis pour nous, la prochaine balado, ça va être intéressant de revoir ce sujet-là.
On sera dans la dernière portion du voyage.
Puis ça va être intéressant de voir à ce moment-là si Martin est revenu ou pas revenu, parce qu'on n'a aucune idée.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe? Parce que moi, j'ai fait un constat. Très rapidement, j'en ai glissé un mot à la fin de à la fin de la rencontre avec Jérémy Filosa l'autre soir aux amateurs de sport, mais on n'a pas vraiment élaboré là-dessus. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a le temps, puis c'est pour ça qu'on fait balado, c'est pour ces choses-là. Martin, l'équipe a pas bien joué.
Non.
A pas bien joué défensivement, mais a pas bien joué offensivement. Même s'ils ont eu 38 tirs au filet, ils ont pas bien joué.
Ça dénote les bonnes intentions. Les 38 tirs au filet.
Oui.
Puis Trevor Letoski, qui est celui qui dirige l'orchestre en l'absence de Martin, qui a pris le contrôle du banc, il a dit d'emblée, tout le monde ici avait une bonne intention lors de ce match-là, puis s'ils n'avaient pas eu de bonnes intentions, il n'y aurait pas eu 38 lancés. On a senti même de la passion dans le jeu.
Oui.
À 5-3, à 5-2, Danny, à la fin, ils avaient envie de faire 5-3 puis continuer de se battre. Ça, c'était porteur. Mais c'est dans le rendu où ça a été plus difficile.
Oui, dans l'exécution, puis moi, c'est mon jardin, c'est ça. Oui. Là. Et écoute bien la statistique, puis je prends bien le temps de t'appuyer quelque part pour pas tomber. Là, parce que dans le match, il y a eu 16 revirements. J'ai vu des matchs où il y en a eu plus encore, là, mais mettons 16 revirements.
Disons là, que pour tu donnes un ordre de grandeur, un match où ça va bien, ça peut être combien
c'est 10,
de revirements?
C'est en bas de 10.
Okay.
En bas de 10. Là.
Mais on est presque au double.
On est presque au double. On est au double. Normalement, là, 7-8 revirements. Dis, OK, ça fait partie de la game, comme dirait l'autre.
Là-dessus, tu vas donner un but peut-être.
Ouais,
là.
C'est ça. Tu te dis, tes meilleurs trios vont avoir un revirement, deux revirements. Et contre une bonne équipe, des fois, trois revirements dans le match. T'sais. Le premier trio du Canadien en 7 revirements. 7 revirements. C'est la moitié pratiquement des revirements de toute l'équipe. OK, souvent, on va dire les défenseurs. Les défenseurs ont seulement trois revirements dans tout le match.
C'est là ce qui nous laisse croire, Danny, que le premier trio, les leaders de l'équipe, le trio le plus fort qui doit prendre l'équipe sur ses épaules, a tenté de le faire dans les circonstances.
A mal tenté de le faire.
Oui, mais ils ont tenté de le faire.
Ils ont oublié tout ce que Martin leur avait enseigné.
Oui.
Là, j'ai vu des joueurs la rondelle dans le dos. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont partis trop rapidement.
Trop loin des défenses.
Dans le langage, le tricher. Là.
Oui, oui.
Parti alors qu'on n'a pas encore le plein contrôle de la rondelle. Mm-hmm. On récupère la rondelle, le gars est obligé de pivoter. Il y en a un qui a la rondelle et il l'a en arrière. Il n'est pas capable de faire... Ça, c'est pour la portion dans son territoire. Dans le territoire adverse, beaucoup de jeux à risque, très haut dans le territoire, qui se sont transformés en situation 2 contre 1, en
absolument.
Chance de marquer pour l'adversaire. Alors moi, je dis ceci, en ce qui concerne le Canadien et l'absence de l'entraîneur-chef, c'est une opportunité maintenant pour Trevor Letoski, bien sûr, mais pour tout le personnel d'entraîneur de solliciter l'équipe, de se relancer, mais de revenir à des choses qui vont faire que l'équipe va avoir du succès. Et c'est encore plus vrai contre Edmonton, Martin.
Oui.
L'équipe devra être impeccable défensivement et garder le match à très bas pointage.
Parce que ça va coûter plus cher
contre eux autres.
Contre les Oilers,
c'est
bien sûr, le McDavid, Draisaitl, mais toute une dynamique d'équipe qui est axée sur l'attaque un peu. Ils ont fait du ménage, les Oilers, défensivement ces dernières semaines avec le nouveau coach. Mais ils vont, le Canadien pourrait se faire mettre KO très rapidement. S'ils font un copier-coller de ce qui s'est passé dans l'autre ville de l'Alberta.
Si on ne redresse pas la situation très rapidement, pensons aux deux prochains adversaires qui font partie des équipes élites de la Ligue nationale en ce qui concerne la force de frappe en attaque.
Danny, sans Martin Saint-Louis.
Oui.
Là, je te pose la question à l'entraîneur, celui qui est de nous deux, qui a des notions, quand arrivent les moments de travailler avec une équipe qui vit... J'appellerai pas ça une crise, c'est pas une crise, mais qui est heurté par quelque chose sur le plan émotif. Comment Trevor Letoski et ses adjoints reprennent le volant? Parce qu'on peut leur montrer des vidéos et dire, regardez les gars, là, c'est là, c'est là. Puis je pense qu'après le match, les joueurs le savaient à peu près tout, ce qui s'était passé ou pas passé. Mais comment on ramène l'équipe sur les rails dans les circonstances?
Ben moi, moi si je suis Trevor Lutowski, moi j'ai un meeting avec le capitaine.
Ce qui est probablement déjà fait au moment où on se parle, avant même le match contre les Oilers d'Edmonton, à moins qu'on ait voulu les laisser décompresser un peu. Là.
Une réunion, lui et moi seulement.
Oui.
Et dans cette réunion, moi, ma première question, c'est qu'est-ce que tu penses que Martin aurait dit durant le match?
Oui, intéressant.
Qu'est-ce que tu penses que Martin aurait dit à l'équipe? Qu'est-ce que tu penses que Martin t'aurait dit à toi? Avec tes quatre virements.
Ouais.
Moi, là, je suis en transition. Je suis ici, là, je suis le porte-voix. Je suis un peu... Tu sais, on a... tout ce qui a été mis en place, c'est un groupe d'entraîneurs, mais c'est, le boss, c'est Martin. Il est pas ici, là. Moi, je peux pas jouer au boss, là. Moi, j'ai besoin de l'appui des vétérans.
C'est vraiment comme ça, c'est-à-dire que l'entraîneur adjoint, Lutowski,
oui,
sort pas de son rôle, il devient pas l'entraîneur-chef, non?
Non, il peut pas sortir.
Surtout
son
pour
rôle.
Du court terme, Danny. Hein?
Parce que ça va tellement créer de la dissonance, là, quelque chose d'interférence au niveau du relationnel, ouais, avec les joueurs. Ouais. Donc, il doit garder la même place, mais simplement interpeller le capitaine.
C'est pour ça que le capitaine est important dans une circonstance
vital,
comme celle-là.
Vital. Beaucoup plus de responsabilités sur les épaules de Nick, et je pense qu'il est prêt à prendre ça.
Il a dit d'emblée, après le match, Martin va nous manquer. D'emblée, il l'a dit tout de suite, parce que les joueurs n'ont pas parlé aux médias lorsqu'on s'est aperçu, bien sûr, que lorsqu'on nous a annoncé que Martin quittait. Juste pour que les gens comprennent, là, ça s'est passé seulement après le match, puis ça a été ses premiers mots. Mm-hmm. Martin va nous manquer. C'est là qu'on va voir aussi, Danny, je pense qu'on doute pas des capacités de Suzuki d'être un capitaine. Mais on va quand même voir, il va être testé, Suzuki.
Ben, c'est sûr. C'est de l'adversité, Martin. Et c'est pour ça que, moi, je pense que les entraîneurs, et Trevor en particulier, qui va faire office d'entraîneur-chef, doit absolument se rapprocher du capitaine. Trouver une façon de se rapprocher du capitaine. Et travailler en co-gestion, co-leadership avec lui. Parce que le leadership, c'est quelque chose que tu partages. C'est pas quelque chose que tu prends tout seul. Là,
on sait pas encore, mais si l'absence de Martin devait se prolonger, Lutowski est le seul qui a du millage comme entraîneur-chef.
Oui.
Trevor Lutowski, pour les gens qui ne le savent pas, parce que c'est pas un gars très connu là pour le public en général, mais c'est un ancien joueur. Il a joué plusieurs années dans la Ligue nationale avec de bonnes équipes à part ça.
Oui.
Puis ensuite, il a dévié vers le coaching. Il a travaillé dans la Ligue junior de l'Ontario avec deux équipes différentes. Et il a, à toute fin pratique, là, un peu plus de 5 ans d'expérience comme entraîneur-chef au niveau junior. C'est pour ça qu'on a donné le volant à Trevor Lutowski, Alex Burrows et Stéphane Robida ont moins de millage comme entraîneur-chef.
Ben, dans la hiérarchie aussi.
Tout court, là, dans leur parcours. Et c'est important, Danny, de revenir sur ce test que l'équipe va subir, parce que, sans dire qu'on peut tout débattir, on peut maganer un petit peu la structure de la maison si l'équipe se met à mal jouer, surtout si l'absence de Martin se prolonge.
Non, tu peux pas avoir un autre match comme l'autre soir.
C'est fragile, ça. C'est fragile, Danny. Sur ce qu'on travaille pour accomplir, tu peux le défaire plus vite que ce que tu as travaillé pour le bâtir.
C'est toujours plus rapide pour revenir aux vieilles habitudes, les mauvaises habitudes. Mm-hmm. Toujours très facile de revenir à ça.
Oui.
Je sais pas si j'étais là, je dis ça, c'est comme décider de suivre un régime ou d'arrêter ceci ou cela. Tu sais, c'est facile de retomber dans le panneau.
Il y a des rechutes.
C'est facile de retomber dans le panneau. Non, mais c'est parce que c'est le chemin facile pour les gars comme Cole, les gars comme Nick, d'essayer de compter des buts puis d'être juste en attaque. Ben là, t'es juste en attaque. T'as bien des tirs au filet. Tu dis après le match, ben écoute, regarde, là, on a quand même 38 tirs au filet. Le goaler était bon l'autre bord.
Mais ça n'a pas été l'attitude de l'équipe pantoute.
Non.
Par exemple.
Non.
Ça n'a pas été l'attitude.
Non, parce que je pense qu'on les a sollicités.
Ouais.
Je pense que les entraîneurs les ont sollicités. On leur a dit que t'as pas la bonne façon.
Et il faut dire aussi que les joueurs ont peut-être un portrait plus précis que ce que nous avons.
Oui.
De la situation.
Sûrement.
Quand tu sais ce qui en est,
oui.
Tu as peut-être une bonne idée de combien de temps Martin Saint-Louis va s'absenter.
Ah oui, oui,
ça,
oui.
Ça, c'est la donnée.
Pas pensé à ça, t'as raison.
Que nous,
nous on n'a pas. Non.
Danny, voici maintenant pour le dossier de l'entraîneur. On espère franchement que la famille de Martin et Martin vont bien s'en sortir, oui. Danny, c'est ce qu'ultimement nous souhaitons. On va se pencher sur le hockey maintenant, puis on va parler de Cole Caulfield, parce que l'occasion est belle d'en parler au début de ce voyage-ci. Il a marqué son 20e but.
Mm-hmm.
20 buts, c'est un cap important, peu importe le joueur. Est-ce que c'est un cap assez important pour Cole Caulfield, 20 buts? Ou si, pour lui, il est bien en deçà de ce que lui-même espérait, parce que sur ce côté-là, Cole est assez difficile à percer. Je parle dans les entrevues et dans les mails de presse. Mm-hmm. Il va nous parler, mais il se livre pas beaucoup, Cole Caulfield, à la presse, aux médias, dans les questions qui lui sont posées. Est-ce que tu penses qu'il est déçu de lui à 20 buts comme ça, après avoir joué 67 matchs?
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il est déçu. Est-ce qu'il aimerait en avoir plus? Évidemment, mais il est pas déçu. Il est pas déçu pour plusieurs raisons. Tu sais, sa meilleure saison, ça va être ses 26 buts en 40 quelques matchs.
Ça, c'est quand la blessure à l'épaule est arrivée.
Oui. L'an passé, il a joué 46 matchs, il a 26 buts, mais il a 10 passes, il a 36 points.
Oui.
Bon, cette année, là, en 67 matchs, il a 20 buts, mais il a 33 passes.
Ça, c'est l'amélioration.
Ben, il y a plusieurs améliorations, mais je vais en parler. La première, Martin, c'est celle-là. C'est que, il passe la rondelle beaucoup mieux et beaucoup plus qu'avant. Donc, il cherche moins à lancer de façon systématique. Alors, ça, c'est vraiment important. Et, l'autre affaire, c'est que, au différentiel, il est moins 8.
Oui.
Il était moins 10 l'an passé en 46 matchs.
Oui.
Et l'année d'avant, en 65 matchs, donc au même temps qu'aujourd'hui, là, 65 matchs, OK, sa première année, moins 24.
Elle est là, l'amélioration.
Entre autres. Ensuite, au niveau de ses buts gagnants, il y a 6 buts gagnants cette année.
Oui.
Sa meilleure récolte de buts gagnants auparavant, c'était 3 buts gagnants. Je comprends qu'il y a des buts à 3 contre 3 là-dedans, mais c'est quand
mais
même
des buts gagnants.
Des buts qui te donnent un point.
Ce que les gens attendent de lui quand il va sur la glace puis le match est sur la ligne, c'est un but gagnant. Alors
exact.
Ça, il a livré. Dans la proportion d'Annie, il a livré quand même.
Oui, exactement. L'autre chose où c'est vraiment encourageant, c'est qu'au niveau des actions défensives, donc de son engagement, du moment où il est arrivé à Montréal, l'arrivée de l'entraîneur, à aujourd'hui, il a pratiquement doublé son engagement.
On résume ce que c'est les actions défensives pour que les gens nous suivent comme
il faut. Les mises en échec, les tirs bloqués et les rondelles soutirées à l'adversaire, la combinaison des trois, je les divise par le nombre de matchs, son temps de glace est pas mal le même depuis 3 ans, puis même un petit peu plus cette année. Mais ça veut dire ceci.
Tu obtiens une donnée numérique qui donne une mesure.
C'est un indicateur pour moi.
Ce qu'il fait défensivement sur la glace.
C'est ça, son niveau d'activité.
Oui.
La chose qui inquiète peut-être les gens, moi, ça m'inquiète pas parce que je trouve que là-dedans, il y a quand même une progression qui se fait. Puis cette progression, il faut que tu laisses des affaires en cours de route.
Ouais.
C'est que sa production à 5 contre 5 au niveau des buts et des passes, à sa première année à 5 contre 5, c'était 78% de sa production. À sa deuxième année, c'était 73% de sa production. Je parle des buts.
Oui.
Et cette année, c'est 60% de sa production en buts qui vient de 5 contre 5. Donc, 40 en avantage numérique. Donc, écoute, c'est sûr que jusqu'à maintenant, tu regardes ses proportions. Ça a diminué au lieu de s'améliorer.
Oui.
Mais il est plus engagé. Il fait beaucoup plus de choses qui servent ses coéquipiers sur la patinoire.
Cole Caulfield a participé directement à plusieurs des 26 buts de Nick Suzuki cette année. On l'a vu à plusieurs reprises talonner l'adversaire, provoquer une erreur. C'est arrivé dans l'avant-dernier match du Canadien. La séquence est très claire dans ma tête. Là. Cole Caulfield fait pression sur le défenseur Carlo, qui est un des plus fiables de l'équipe de Boston défensivement. Il lui fait faire un bobo. Il lui fait faire précipiter son jeu. Il envoie la rondelle dans une zone où qui est là? Slavkovski finit le jeu avec un beau tourniquet, mais il donne ça à Suzuki. Caulfield n'est pas sur la feuille de pointage. Mais le Caulfield de 2023-24 fait ça, mais le Caulfield de 21-22 et même 22-23 aurait peut-être pas été aussi efficace pour faire ça.
Non. Puis là, tu parles d'un jeu en zone adverse.
Oui.
Puis ça, c'est sans compter tout dans ce qui se passe dans sa zone.
Parce que dans sa zone, Danny, même là, en 2021, lors des séries où Cole avait été quand même très bon, là, même dans sa zone en 2021, en série, c'était pas le joueur le plus fiable de l'équipe que tu voulais avoir sur la glace quand on était près d'une période de prolongation.
T'étais obligé de le sortir de la rotation. Tu veux pas faire ça. Écoute, c'est un de tes plus hauts salariés. Lui, il faut qu'il joue tout le temps, là.
Ouais, puis Martin Saint-Louis a été plus que clair. Il a dit, moi, là, le nombre de buts de Cole, ça me dérange pas. Il y a des affaires qu'on doit...
Qui me dérangent.
Moi, mais qui doit entrer dans sa game.
Oui, oui.
Pour être, puis ça, c'est pas Martin Saint-Louis qui l'a dit, pour être comme Martin était. C'est-à-dire, le joueur sur qui tu peux compter quand tu vas aller en série, en première prolongation, deuxième prolongation, tu vas aller chercher un but, mais tu veux pas que Cole Caulfield te coûte le but qui t'envoie en vacances.
Ben, tu sais, Martin... Il va toujours savoir compter des buts, Cole.
Ben, c'est ça.
C'est le reste qu'il faut qu'il apprenne.
Oui.
Puis il faut pas que tu l'empêches de compter des buts, mais il faut pas non plus que tu faut qu'il soit capable de jouer dans toutes les situations parce que c'est un de tes joueurs les plus importants dans l'équipe.
Et puis dans l'histoire du Canadien de Montréal, puis là je fais pas de comparaison, mais le grand Guy Lafleur coûtait pas aux Canadiens de Montréal.
Non.
Grand Guy Lafleur marquait des buts puis oui. Coûtait pas aux Canadiens. Oui. L'année où notre ami Richer a marqué 50 buts, Danny, il coûtait pas à l'équipe.
Non, non.
C'est ça. Lui, il était dans l'actif, il était pas dans le passif.
Oui. Puis je regardais les joueurs de son gabarit, là. Je suis allé voir les joueurs de son gabarit.
Moi, j'ai hâte que tu me parles d'un parce qu'il y en a un qui pourrait être une bonne image aux gens, mais je t'écoute.
Oui. Ben, Alex DeBrincat, pour moi, là, si tu regardes la façon dont il joue, Zuccarello, c'est des joueurs qui ont le même gabarit, même grandeur, là. Ouais. Ça se ressemble, puis ils ont des fiches. Ce sont les deux seuls joueurs avec des gabarits comme ça, là, qui est similaire à Cole, c'est les deux seuls qui ont des fiches similaires. Donc, similaires légèrement supérieures. Mm-hmm, 54 points pour DeBrincat, puis 55 points pour Zuccarello au Minnesota. Et dans les deux cas, Martin, les joueurs produisent à peu près la même chose, sinon moins à 5 contre 5 que Cole Caulfield.
Ce qui est un point en faveur de Cole.
C'est ça. Et qui nous dit... Tu vas chercher des comparables, tu dis, écoute, ce sont des joueurs de gabarit similaire. Puis, je tiens à le dire, là, parce que DeBrincat a marqué 30 buts dans sa carrière. Zuccarello, c'est un marqueur de 20 buts, mais c'est un gars de 60 points, parce que c'est un passeur.
Il a fait tellement d'années d'affilée.
C'est un passeur, puis c'est un gars de facilement 60 points par année. Mais il n'y a pas de marqueur de 50 buts là-dedans. Là.
Et moi, j'ai en tête...
Il n'y a pas de marqueur de 50 buts. Non. Ça, je pense que c'est bien important.
J'ai en tête évidemment, quelques exemples. Puis je veux m'attarder sur un avant de passer à une petite pause puis changer de sujet. Récemment, on a vu Johnny Hockey Goodrow.
Oui.
Quand Goodrow a commencé sa carrière à Calgary... C'était Cole Caulfield, c'est-à-dire qu'on voyait ce joueur spectaculaire et tout. Mais moi, je comprends Martin Saint-Louis de vouloir insister sur l'autre aspect, l'aspect global du jeu de Caulfield, parce que à l'aube de la trentaine, quand on voit ce qui est devenu Goodrow, un joueur, disons, de périphérie, comme t'aimes bien le dire, un gars qui s'implique pas beaucoup dans le jeu... un gars qui voudrait peut-être faire ces changements-là, mais sans dire qu'il est trop tard, il est rendu à une étape de sa carrière où il se fie qu'à quelque chose dans son jeu puis il reste là-dedans, dans cette boîte-là. Mm-hmm. Il faut pas que Cole Caulfield devienne Johnny Goodrow.
Non, non.
Avec tout le respect que j'ai pour Goodrow quand même. Ouais. Là.
Mais je veux te dire que Goodrow était... est beaucoup moins dynamique, je veux dire comme ça. Là.
Ouais.
Beaucoup moins dynamique que Cole. Et c'est un moins bon tireur. Ouais. Donc, tu sais, Cole, la force qu'il a, c'est que si tu lui donnes de l'espace, il va lancer.
Ouais.
Et il y a un tir pour marquer 30 buts par année. Ça, pour moi, là, 40 buts, là, on commence à y tirer. Mais écoute, Comment ça se serait passé si on avait eu Kirby Dack pendant toute la saison, on ne saura jamais. Mais c'est sûr qu'il est beaucoup plus victime des couvertures de l'adversaire, des confrontations, parce qu'il y a seulement un trio offensif chez le Canadien.
Puis lui, il doit se le demander à quelque part, parce que toute l'organisation se le demande, qu'est-ce que ça aurait été si Kirby Dack avait été là. En deux secondes, Danny, avant de s'arrêter, puis de changer de sujet, toujours chez le Canadien quand même, là, on s'inquiète pas.
Non. Moi, j'ai trop d'indicateurs favorables pour l'instant. Puis tant que je le vois travailler, pour moi, le nombre de buts, c'est un élément qui va, il va venir avec la qualité de l'équipe.
Même s'il en marquait 25 puis juste 30 par année, en autant qu'il continue d'augmenter son rythme de buts gagnants d'aller, puis qu'en série,
exactement,
il devienne un gars qui permet aux Canadiens d'aller plus haut et plus loin. On s'arrête et au retour, on va parler des jeunes de l'organisation. On est au temps de l'année où les jeunes arrivent, reviennent autour du giron du Canadien, puis on va parler entre autres de David Randbacher et de quelques autres. De retour au balado, bon match, Danny, maintenant, David Randbacher et quelques jeunes de l'organisation, avec le printemps qui s'en vient, reviennent tranquillement au bercail, si on peut s'exprimer ainsi. Dans le cas de Randbacher, lui a terminé sa saison. Il y a d'autres jeunes de l'organisation, Talk, entre autres, Hodgson, le gardien Fowler, lui, c'est peu probable parce qu'il est vraiment jeune, mais surtout Talk et Hodgson, eux vont poursuivre. Ils sont dans de bons programmes, Boston University, Boston College, et ces programmes-là risquent d'être dans la grande danse du hockey universitaire américain, là, dans les grandes rondes de championnat qui s'en viennent incessamment. Alors, c'est pas pour tout de suite dans le cas de ces gars-là, puis on sait pas s'ils resteront des étudiants ou s'ils deviendront des professionnels. Dans le cas de Tuck, lui est rendu à devenir un professionnel, là. Mais dans le cas de Hodgson, les indications sont là, mais la décision est pas encore prise, alors il va falloir attendre un peu.
Moi, si j'étais du côté du Canadien de Montréal, mettons que je marche 30 secondes dans les souliers de Kent Hughes, là. Moi, je te dis, Martin, il m'arrangerait pour que Lane Hodgson, qu'il laisse l'université puis qu'il s'en vienne.
Ah oui?
Tout de suite, là.
Ah oui?
À la fin de son année, là, bien t'as mon homme.
Parce que ses statistiques démontrent qu'il est dominant à ce niveau-là. Mm-hmm. Il l'était l'an passé puis il l'a été encore cette année. Alors, pour le faire progresser, faut que tu l'amènes pro.
Pas juste ça.
Mais c'est touché, la décision, parce que c'est les études. Si Hodgson veut continuer une autre année.
C'est le danger, là, c'est que, à un moment donné, il décide de pas signer avec le Canadien.
Okay.
Le danger, là, dans un cas comme celui-là.
On avait eu peur avec Harris dans le temps.
C'est que d'autres sans équipes raison, commencent à flirter, que les parents entendent des choses, que l'agent entende des choses, que la situation, il y a beaucoup de défenseurs à Montréal, est-ce qu'il vraiment il va jouer? Là, ça part dans toutes les directions. Là. Plus vite tu ramènes le gars au bercail, plus vite tu élimines cette situation-là. Moi, dans ma tête, Lane Hodgson, à la fin de l'année,
ça va être
Canadien
à suivre.
De Montréal.
Ça va être à suivre.
C'est juste mon opinion.
Ouais, puis après on verra si ça arrive ce printemps-ci, si on lui fait jouer un match et tout. Ça sera d'autres considérations. Dans le cas de David Randbacher, Danny, lui, il a passé une deuxième saison complète avec le club de Kloten en Suisse. Son année de repêchage a été bonne parce que son club, lors de son année de repêchage, a été bon. Le club de Kloten ne l'a pas été cette année. C'est un club perdant. David s'est blessé au début de l'année. Il n'a pas commencé l'année vraiment. Il y avait un problème avec un genou. Quand il est parti, là, il y avait un problème avec un genou. Il y a eu une rééducation dans son cas. Les défenseurs sur les grandes glaces européennes, quand tu veux jouer en Europe jusqu'à la fin de ta carrière, c'est bien parfait. Mais moi, je pense que plus vite Randbacher va jouer sur des glaces nord-américaines, puis plus vite il va devenir un contributeur du Canadien directement.
Ben, c'est clair, là. Lui, il n'y a plus rien à faire là-bas, là. De toute façon, il a besoin de changer d'air, parce que on a eu la chance de s'exprimer là-dessus précédemment, mais pour les gens qui nous écoutent...
Tu as parlé à des gens qui l'ont suivi là-bas.
Oui, puis tout ce qu'on m'a dit, c'est la même chose. C'est... Un, il a changé sa perception de lui. Donc, maintenant, il se voit plus comme un gars tu sais, qui a de l'envergure, c'est un premier choix au repêchage, c'est normal.
Un choix top 10 aussi.
Oui, c'est top 10. Donc,
puis je pense que les partisans là-bas s'attendaient à ça aussi.
Puis, hey, dans son entourage, choix. On a commencé à le peut-être avoir des attentes différentes.
Ouais.
Et ces attentes-là étaient beaucoup plus axées sur une production offensive, ce qui ne lui appartient pas.
Puis c'est pas vraiment arrivé.
Ce sera pas sa game.
3 buts, 19 passes pour et plus 7 cette année en 23-24 avec Kloten. C'est pas là que c'est pas des chiffres d'un gars où tu dis son pain son beurre va être l'offensive.
Non non,
c'est pas Adam Fox. Là.
C'est pas un joueur comme ça. C'est un joueur qui va être en tout cas ce qu'on m'a dit c'est que sa force l'an passé, c'était la qualité de sa première passe, ses décisions qu'il prenait avec la rondelle.
Et ça Danny, on se souvient, on était autour de l'équipe quand ils l'ont repêché à Nashville,
oui.
On a même été capable de le dire un petit peu avant que ce serait lui dans le scénario B là parce oui. que le scénario A était Will Smith là, mais dans le scénario B, c'était lui. Puis les gens du Canadien, puis les gens autour dans la Ligue nationale qui l'avaient évalué Rinebacker, disaient tous ça.
Oui.
C'est un bon gars fiable de première passe.
C'est ça.
Il panique pas. Puis moi, j'ai vu ça au tournoi des recrues à Buffalo, un petit peu.
Oui.
Avec des gars de son calibre, mais
oui.
sur une glace nord-américaine, il s'essaye, il panique pas. Puis ça, c'est ses premières qualités. Mais pas offensif, là.
Non, non, mais Ekholm, là, tu sais, un joueur... s'il prend du gabarit parce que c'est un grand,
ouais.
il est grand, il est 6 pieds 3 pouces, il n'a pas encore rempli le réservoir au complet, là, donc
ouais.
il va quand même prendre du volume.
Maturité physique n'est pas là.
Il
n'est
pas là du tout.
Ouais.
Alors, ça, c'est une bonne chose d'une certaine façon. C'était une des raisons qui a motivé le Canadien l'an passé à le retourner parce
ouais.
que physiquement, il n'était pas prêt pour la charge de travail.
Même pas la Ligue américaine.
C'est difficile, la Ligue américaine. Les 3 matchs en 3 soirs, les 3 matchs en 4 soirs, les déplacements.
Mais moi, j'en ai douté, Danny, je vais
ouais,
te le dire.
Ouais,
quand
ouais.
ils l'ont retourné, ouais. là, j'en ai douté un petit peu.
Mm-hmm. Ben, c'est toujours la même chose, hein, parce que si le joueur est dans un bon contexte, ça marche. Si le joueur n'est pas dans un bon ouais. contexte, cette année, c'était pas un bon contexte à Kloten. En plus, lui, il a été blessé en début de saison. Quand il est revenu, il a eu beaucoup de difficultés. Donc, moi, tu sais, puis là, on s'est mis à douter de ses qualités offensives.
Ouais.
Là, il a essayé d'en faire.
Là, tu parles en Suisse, bien
en
sûr.
En Suisse, là, il a commencé.
Ça n'a pas traversé l'océan, ces affaires-là.
Non, 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 non. Mais là, il a commencé à douter de lui-même, à essayer d'en faire plus.
Pas bon,
plus,
ça.
Et plus il faisait ça, ben plus il s'enlisait.
Et Danny, moi, je pense que ce sera un sujet pour un prochain balado, là. Mais moi, je pense que l'environnement à Laval, il est bon.
Oui, oui.
Tu sais, Jean-François Hull, Kelly Buckberger, qui est un peu plus vieille école, mais qui a quand même une très bonne influence.
Bonne connexion avec les joueurs. Très, très bonne.
On l'a vu avec Jack Eye, on l'a vu avec Screwball. Il le fait probablement encore avec Barron, qui est retourné.
Moi, je te dis, là, je l'ai... Tu sais, Bucky, moi, je l'ai eu.
Tu l'as coaché,
Buckberger. Je l'ai coaché au championnat du monde, là. Puis lui, là, c'était le ciment. C'était lui qui rassemblait l'équipe. C'est un joueur... tellement un joueur d'équipe,
ouais.
un gars de... toutes les petites subtilités du vestiaire, toute la dynamique, le flair pour savoir si les gars vont bien, vont pas bien, s'ils sont prêts, sont pas prêts. Ton baromètre, c'est lui.
Écoute, je trouve le Canadien a perdu Luke Richardson. Puis je dis perdu.
Oui.
Parce que Luke était ce gars-là dans le grand club, Danny.
Oui, exactement.
Il y avait cette force-là
ouais.
avec ses jeunes défenseurs, puisque c'était sa responsabilité. Alors, Rinebacker va bénéficier d'un bon environnement. Mais, dernier point en ce qui a trait à Rinebacker et le développement des jeunes défenseurs, il y a de la compétition, Danny.
Oui.
Est-ce que ça, pour le jeune Rinebacker, c'est positif de l'amener non seulement dans un bon environnement nord-américain, comme on disait tantôt, avec du bon monde, mais dans un milieu où il va devoir se battre. Tu sais, pas juste parce que droitier-gaucher, mais tu sais, tu veux être dans la hiérarchie. Il va avoir Mailloux autour de lui. Tu sais, il va avoir Trudeau. Il y a d'autres gars qui vont se battre pour des jobs dans la Ligue nationale.
Mmh.
Est-ce que c'est bon de l'amener là, dans ce contexte-là?
Ce qui est bon, là, c'est que Rembacker va jouer pour le Canadien de Montréal.
Oui.
Logan Mailloux va jouer pour le Canadien de Montréal.
T'es convaincu de ça pour les
Absolument.
Deux?
Absolument. Ouais. Sans l'ombre d'un doute. À quel moment, je sais pas. Dans quel contexte?
Qu'est-ce qu'ils feront? Combien de minutes? Ça, c'est une grande question.
C'est une autre affaire.
Ouais.
Mais si j'ai à faire un choix, je suis pas mal sûr que Logan Mailloux va avoir la chance d'être sur une deuxième unité en avantage numérique, puis que Rembacker va sur la première vague en désavantage numérique. Fait que moi, ces deux gars-là, c'est des gars qui doivent devenir des coéquipiers, des amis, des
ouais.
proches.
Ouais.
Pourquoi? Parce que ça facilite la transition après vers la Ligue nationale. On le voit, nous, là, on est sur la route,
oui.
puis on voit, là, on en parlait hier.
Avec les gars actuels, là, ouais, les jeunes actuels de l'équipe.
C'est les jeunes qui ont passé du temps à Laval, ils se tiennent ensemble.
C'est ça.
Puis là, je vous donnerai pas les noms, là, mais,
mais
tout le monde le sait.
Vous
là,
les connaissez. Là.
Puis ça, là, c'est je trouve que ça a une valeur ajoutée. C'est essentiel que les joueurs arrivent dans le vestiaire. Ils se sentent un peu chez eux.
Oui.
Parce qu'ils ont des bodés dans le vestiaire, ils ont des amis, ils ont des collègues, ils ont des joueurs, des coéquipiers, des gars avec qui ils ont partagé du temps. C'est impératif que Rembacker soit là et qu'il ait un faut qu'il gagne son temps de jeu, là, mais qu'il devienne un joueur qui a un rôle important avec le Rocket de Laval.
Puis en conclusion, avant de passer à la pause, l'autre affaire qu'on voit, Danny, ne vous en faites pas. Nick Suzuki fait un excellent trait d'union avec ce qu'on appelle le groupe des jeunes.
Les différentes générations.
Puis le groupe des vétérans.
Absolument.
Il laisse personne de côté,
non,
Nick Suzuki.
Non, vraiment. Ça, on le voit faire, nous, là, en dehors de la glace.
Puis ça, ça va être bon pour Rembacker, puis Hudson, puis tous ceux qui vont arriver, puis Mailloux.
Toute la gang. La prochaine génération.
Effectivement. On s'arrête, mesdames, messieurs, et au retour, nous irons dans la Ligue nationale. Il y a des équipes qui se sont équipées pour la guerre des séries. On va aller voir s'ils ont tous les bons armes aux bons endroits pour pouvoir réaliser leurs ambitions. La plupart des équipes d'Ali Dubé, cette semaine, vont franchir le cap des 70 matchs joués. Ça veut dire que lorsque nous allons enregistrer l'épisode 17 du balado Bon Match, il restera à peu près une douzaine de parties à jouer pour la plupart des équipes. Là, on est vraiment dans le sprint final. La date limite des échanges était là pour s'améliorer, se renforcer, s'assurer d'avoir les chevaux pour aller courir jusqu'à la fin puis le plus longtemps possible. Mais comme on a déjà passé presque une dizaine de jours maintenant depuis la date limite des échanges, on commence à avoir un portrait. Puis on commence déjà à voir l'impact. Parce que quand tu vas chercher des joueurs à la date limite des échanges, tu ne veux pas attendre deux ans que ça clique.
Non.
Faut que le gâteau, il lève tout de suite dès qu'il sort du four. Faut qu'il soit
idéalement
bon, cuit à bonne température. Puis il y a des équipes pour qui ça marche. Il y a d'autres équipes où leur lacune d'avant date limite pas comblées sont encore là.
Et
même plus que jamais pour certaines équipes.
Ben, en tout cas, il y a définitivement des contributions qui sont plus silencieuses que d'autres. Mais ça veut pas dire que ça compte pas, là, parce que tu as des joueurs qui vont arriver, vont te donner pas nécessairement des buts, des passes, mais ils vont te donner des grosses minutes.
Ouais.
Des bonnes minutes. Je prends l'exemple de Casey Mittelstadt. Tu sais, je veux dire, c'est pas
avec le Colorado.
Avec le Colorado qui était à Buffalo. Bon, il est dans la transaction avec Bowen Byram.
Les Sabres sont contents de la transaction.
Ben, les autres.
Ça va payer plus tard, mais concentrons-nous sur Mittelstadt.
Ben, là, les deux, si tu fais une comparaison, c'est sûr que il y en a un, là, Byram à la défense. Il a joué 5 matchs, il est plus 2, il a 5 points, 3 buts, 2 passes.
Ben, il explose à Buffalo, là.
24 minutes par match, c'est bien, là. Mais les autres sont pas dans les séries, là.
Ouais, puis c'est un peu une lune de miel. C'est un jeune joueur.
Ouais, puis c'est pas des séries, là. C'est un autre genre.
Ouais, puis il y avait moins d'impact au Colorado parce qu'il était derrière Taze, derrière Makar. Puis là, il s'en va dans un environnement où il est le plat du jour.
Oui, oui, exactement.
Avec Power, avec Dallin, entre
autres. Tout à fait. Mais Mittelstadt, c'est un joueur qui leur donne des minutes. C'est un gars qui leur donne 17, 18 minutes de jeu à tous les soirs, qui leur fait de l'excellent travail en complément. Puis, il amène de la stabilité. Ils avaient besoin de ce genre de stabilisateur. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de wow, mais c'est une bonne acquisition.
Ben, c'était pas un wow qu'il allait chercher. Le wow dans cette équipe-là, c'est McKinnon.
Mais il est déjà là.
C'est Rantanen, ce sont les autres.
C'est la même affaire avec Vegas.
Ouais.
Tu sais, Anafin, là, c'est pas transcendant offensivement, non. Là. C'est un joueur de première passe.
Mais le wow, c'est Pietrangelo à défense.
Exactement.
Il est déjà là.
Et Theodore, ces gars-là. Ouais. Donc, lui arrive, c'est un complément. Mais il joue 22 minutes par match.
Oui.
Puis, il ramasse son point pratiquement tous les matchs. Une passe ici, tout ça. Et bon, il y a 4 passes en 5 matchs. Il est plus 2.
S'il y a un des gars qui est blessé, là, si un Pietrangelo manque une coupe de matchs ou ben, il joue pas à 100% quand vont arriver les séries pour une affaire, là.
C'est là que
Anafin et ses 22 minutes sûres vont être un complément extraordinaire.
C'est clair.
Alors, pour ces équipes-là, ça marche, Daniel.
Ça marche. C'est vraiment des contributeurs peut-être un peu plus silencieux.
Ouais.
Mais ça reste intéressant. Là où il y a vraiment des surprises pour moi, c'est en Caroline.
Oui.
Parce que Kuznetsov, là, t'es pas sûr, moi, là. T'es pas sûr.
Il sortait directement du programme d'aide de la Ligue nationale.
Exactement.
Tu sais pas comment ça va se passer. Puis là, je prends vraiment le côté humain pour lui, là, parce que il a accepté d'aller se faire aider. Quand il va là, il va sur une base volontaire.
Mm-hmm.
Puis tu sais pas dans quel état d'esprit, si la tête va être au bon endroit pour exploiter toutes ses forces.
Ouais. Mais la chose qui est intéressante, c'est que il a pris la direction d'une organisation qui avait un gars un peu à la Martin Saint-Louis comme entraîneur.
Ouais.
Un gars qui a Rob Brind'Amour, c'est un gars qui a du charisme, c'est un gars qui a du leadership en lui.
C'est un club solide.
Et il arrive, puis il vient chercher le complément.
C'est un club solide.
Exactement.
Puis il y a des Russes dans l'équipe.
Oui.
Orlov,
entre autres.
Tu sais, puis Orlov, là, c'est un bon joueur. On n'a jamais entendu rien de négatif pour l'individu.
Exactement.
Gardien de but. Tu sais, il y a un petit milieu russe dans cette équipe-là.
Ouais.
Puis ça peut peut-être c'est la même affaire pour les Québécois, là. Des fois, il arrive quelqu'un, ça facilite un peu plus l'intégration.
Ils ont gagné la Coupe ensemble.
Absolument. Absolument.
Lui et Orlov ont gagné la Coupe ensemble à Washington.
Ouais.
Ça n'a pas de prix, là.
Ouais.
Les autres, ils peuvent se parler, ils peuvent amener quand même quelque chose d'intéressant. Ganzo, ben lui, écoute, il a marqué son premier but hier. En fait, là, on est lundi. Hier, marqué son premier but, c'est ça, hein, hier soir.
Oui.
Mais il y avait déjà 4 passes. Fait qu'il y a un point par match, mine de rien, il y a 5 points en 4 matchs. Plus 4. Écoute,
lui, il a eu mal à quelque part, puis ça paraît même pas.
Ça paraît pas.
Parce que quand il a été échangé, il était blessé.
Ouais.
Il avait commencé à patiner avec les Penguins de Pittsburgh, mais il était pas prêt à jouer. Mais ça, on le savait, Danny.
Ouais. Mais Winnipeg.
Avec Tyler Toffoli et Monahan. Là, ça a collé tout de suite.
Écoute.
Il a changé de ville, de couleur de chandail, ça a marché tout de suite. Ça non plus, pour nous qui le connaît bien, c'est pas une surprise pour
tout. Non. Mais Toffoli a marqué à tout, 4 buts par... 4 buts en 4 matchs.
Ouais.
Il y a 5 points.
Le mercenaire.
Écoute, lui, là.
Moi, je l'appelle le mercenaire.
Il arrive, puis bing, bang, bang. Il y a un effet sur l'offensive, puis c'est instantané.
Tu sais, au baseball,
dans le cas de Monahan, il y a 13 points en 19 matchs, il y a 8 buts. Lui aussi, 56% dans le cercle de mise en jeu. Ça, c'est une valeur ajoutée qu'on ne peut pas négliger. Les gars qui sont bons dans le cercle de mise en jeu, puis lui, c'en est un excellent. Il fait partie de l'élite de la Ligue nationale.
Tu sais, Toffoli au baseball, là.
Oui.
Tu prends un gars que tu es allé chercher là, au mois de juillet pour aller au championnat. Tu le rentres dans ton rôle de frappeur, tu le mets troisième. Il s'en vient à la plaque. Il a juste changé de couleur de casquette. Il frappe la balle tout de suite. Toffoli, c'est ça.
Oui. Ah oui.
Il frappe la balle. Tu l'amènes dans un environnement différent. Il y a un système de jeu différent.
Ouais.
Mais pour lui, ça marche toujours. C'est pour ça que je l'appelle le mercenaire. Ne pensez pas que je parle du gars négativement quand je dis ça. Mm-hmm. C'est un peu ça.
Ouais.
Puis les Jets ont bien travaillé, Danny, puis ça se voit.
Et je veux terminer en te parlant des Rangers parce qu'on a parlé de Winberg. Puis Winberg, on s'est dit, il va amener quelque chose, tout ça. Mais les contributeurs, là, encore une fois, on est dans une situation où on est une équipe qui est très bien nantie. Alors, je m'amuse à surveiller ce que Roslovic fait, ce que Winberg fait, et c'est des passeurs, c'est des gars qui prennent des minutes, mais qui font, c'est pas eux là qui font la job, si tu me prêtes l'expression.
Ouais. Puis Danny, les Rangers là, tu sais qu'en introduction, j'ai parlé des équipes qui avaient des petits problèmes, mais qu'ils n'ont pas complètement réglé ces problèmes. Tu sais que statistiquement, les Rangers continuent de gagner. Tu sais, honnêtement, l'équipe, là, elle est pas menacée. Eux et la Floride vont terminer au sommet de la conférence de l'Est. Là, c'est pas un suspense pour personne. Mais c'est de la façon dont ils gagnent, Danny. Mm-hmm. Shesterkin est constamment sur la ligne de feu. On a l'impression de voir Henrik Lundqvist dans le temps. Puis pour les gens de New York, c'est formidable, tu sais, d'avoir un héritier pour Henrik Lundqvist.
Oh oui.
Mais c'est parce que quand l'équipe se retrouve dans le dernier tiers de la ligue sur les chances de marquer qu'on accorde à 5 contre 5 récemment, ça c'est pas une bonne nouvelle pour les Rangers de New York. Ça fait en sorte que la date limite des échanges, oui, Wenberg, Roslevic, moi j'ai mes grosses réserves sur ce joueur-là. Là.
En série surtout. Là.
Ouais. Alors tu sais, les Rangers se sont améliorés, mais pas. Tu sais, il n'y a pas de démonstration nette que l'équipe s'est améliorée. C'est Shesterkin qui est hot.
Oui, mais je vais te dire une chose, Martin. Moi, je regardais la répartition des minutes jouées. Puis, on répartit. Là, la quatrième ligne commence à jouer plus. Alors qu'on essaie de faire... Ouais. Je dis pas de reposer, là,
non, mais
de ralentir la cadence un peu. Et ça a un effet, évidemment, sur les chances de marquer, sur les confrontations, sur le fait que des fois, tu laisses ta quatrième ligne jouer contre des meilleurs trios parce que tu veux leur donner du temps de jeu, parce que les séries s'en viennent. Puis ça, c'est le genre de choses qu'un gars comme Laviolette va faire parce que il a l'expérience.
Puis là, je veux pas dire que je l'avais dit, là, mais Rampe a pas fini sa suspension, mais il disparaît, là. On parle plus de Rampe dans l'entourage des Rangers de New York. Non. Une petite parenthèse comme ça, Danny.
Fais bien de l'affaire.
Je veux te parler de deux équipes qu'on connaît beaucoup, qu'on connaît pas mal. Les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston.
Oui.
Les Bruins de Boston ont certainement tenté d'aller chercher Noah Hannifin. C'est un gars de la place. C'est un gars de Boston. Ça a visiblement pas marché. On les a crus très actifs dans le dossier Gensel aussi. Et ça n'a pas fonctionné. Les Bruins, on les a vus récemment au Centre Bell. J'ai envie de dire, comme notre ami Torto disait dans le temps, les Bruins, c'est les Bruins. Parce que il joue toujours très bien, puis on a eu une jasette avec l'entraîneur adjoint du Canadien, Stéphane Robida, à bâton rompu comme ça. Puis, tu sais, les entraîneurs du Canadien disaient, Stéphane, puis les autres entraîneurs disaient, les Bruins, ça joue bien. Mais, encore là, c'est une équipe qui ne s'est pas améliorée. Mm. Elle est bonne, elle joue bien collectivement, mais elle s'est pas améliorée, Danny. Ouais.
Ben, c'est parce que pourquoi il est intéressé par Gensel? Ben c'est ça, c'est la touche. Tu sais, t'as beau avoir Pastrnak, mais t'as beau avoir Marchand, mais après ça, là...
C'est plus...
C'est d'autres choses.
Et DeBrusk, il a bien joué contre le Canadien, mais c'est en denti. Heinen, c'est un joueur de soutien. C'est pas un joueur de premier plan.
Mais qui connaît une saison extraordinaire.
Mais c'est pas un joueur de premier plan.
Non.
Quand vient le temps des séries.
Non.
Alors, il y a des doutes un peu, parce que les Bruins sont un peu comme les Rangers. En plus d'avoir un gardien de but, ils en ont même un deuxième.
Oui.
Alors ça vient...
C'est sûr que ça aille.
C'est comme un papier sablé sur un morceau de bois. Ça vient aplanir les défauts.
Ça aille.
Puis on sait jamais. Par contre, les Maple Leafs de Toronto, et là, je veux pas que le balado bon match devienne une terre de Toronto bashing, mais on va être quand même obligé de dire, Danny, que les Maple Leafs ne se sont pas améliorés. Joel Edmondson, c'est sympathique, mais ses belles années sont bien derrière lui, comparativement à ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire stabiliser une défensive qui ne l'est pas.
Ouais.
Et devant le filet, c'est la catastrophe à chaque fois. Quand on pense que le jeune Wall va être en bonne santé pour jouer, il se refait mal encore. Là, on est obligé de se tourner vers Samsonov. Tu sais, c'est toujours lui qui vient essayer de réparer les pots cassés. Il donne tout ce qu'il peut. Mais Samsonov, c'est pas un gardien de premier plan.
Il peut pas te donner ce qu'il y a pas.
Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça, Danny, moi, je suis inquiet pour les Leafs encore. Parce que, tu sais, là, si on s'amusait, là, à faire le jeu des affrontements de la première ronde, là, les Bruins et les Leafs se ramassent un contre l'autre. Il y a des qualités que les Leafs ont que les Bruins n'ont pas. Mais les Bruins, les Leafs ne peuvent pas rivaliser la défense puis le duo de gardiens des Bruins.
C'est
inquiétant pour eux.
C'est la différence entre les deux équipes, là, c'est que il y a une équipe qui est vraiment solide à la défense puis devant le filet, mais qui est aussi capable de marquer des buts.
Ouais.
Puis là, je prends la peine, je sais que c'est juste des chiffres, là, mais il faut pas quand même pas perdre de vue que les Leafs de Toronto ont approximativement la même fiche défensive que les Flyers de Philadelphie.
Et quand même.
Là, tant minute, là.
Puis là, les Flyers, c'est une équipe surprise cette année. C'est pas une équipe prétendante au titre.
C'est une équipe en transition qui est en train de se bâtir, puis c'est une des équipes Cendrillon de la Ligue. Là, tu vois, là, les gens disent, ouais, mais là, en série, tu sais, tu recommences à zéro. Je veux bien croire que tu recommences à zéro. Mais moi, je pense que ça va être extrêmement difficile pour les Leafs d'aller loin. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Ils peuvent battre les Bruins, j'en sais trop rien. Ouais. On va voir parce qu'on sait pas les blessures, tout ça. Là,
c'est la donnée qu'on n'a pas. On analyse avec ce qu'on a devant nous.
Ce qu'on a devant nous, les Bruins sont tellement solides défensivement, puis sont tellement solides en gestion de rondelles. Contrôler le match, là.
Ouais.
Ils contrôlent le match. Mais ils n'ont pas la force de frappe des Leafs.
Ça va pleurer encore à Toronto, peut-être.
D'après moi, oui.
J'espère que pour eux, les Blue Jays auront un bon début de saison.
Ouais.
On les aime quand même, là. On les aime, les gens de Toronto. Je termine juste avec le Lightning. De Tampa Bay rapidement, Danny, puis les Red Wings de Détroit.
Oui.
Les Red Wings ont passé par des jours sombres. Ils ont perdu 7 matchs d'affilée. Puis là, tranquillement, pas vite, en fin de semaine, ils ont gagné. Ça n'a pas été facile, ils ont gagné. Les Islanders ont eu des matchs clés à jouer. Ils sont encore là, juste derrière les Red Wings. Les Capitals, juste derrière les Red Wings. Mais le Lightning s'est stabilisé.
Mm-hmm.
Tu sais, le Lightning, c'est encore possible qu'on les rejoigne. Mais 4 points d'avance sur la première équipe repêchée par rapport à la deuxième.
Ouais.
Je dirais pas que c'est trop. Je dirais pas que c'est confortable, mais c'est juste assez à ce temps-ci de l'année. 4 points, là, c'est du travail, ramasser 4 points sur ton adversaire.
J'ai pas regardé le calendrier du Lightning de Tampa Bay, mais il me dit quelque chose là qui va te convaincre que le Lightning, c'est sûr qu'ils sont en série. Là.
Ouais.
Parmi les équipes, OK, on va commencer avec les Islanders, parce qu'après ça, là, je pense pas que les Pingouins sont dans la course.
Non, les Pingouins sont plus là.
Bon.
C'est Islanders, Détroit, Washington et Tampa.
Écoute-moi bien, Martin. Les Islanders ont gagné 15 matchs à domicile. Les Capitals de Washington ont gagné 17 matchs à domicile. Les Red Wings ont gagné 19 et le Lightning 21.
Ouais, c'est là que ça
c'est se la seule équipe qui a dépassé le cap des 20 matchs gagnés à la maison. Et tu regardes là dans l'ordre les équipes qui traînent.
Ouais.
C'est en ordre décroissant. 19 Détroit, 17 Washington et 15 pour les Islanders. Alors on me dira en saison régulière que l'avantage de la glace ça compte pas.
Non, c'est pas vrai.
D'accord.
C'est pas vrai. Danny, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Merci à Martin Plamondon. Merci à Pierre Gervais, qui sont toujours de très proches et utiles collaborateurs pour la bonne réussite du balado que vous aimez de plus en plus, je l'espère. Bon match. Merci tout le monde. On vous souhaite une bonne semaine et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 17 la semaine prochaine. Bon!